Marie-Webb, Le précieux fléau. Livre 4, chapitre 3, Le fléau mortel. Voilà qu'il m'est difficile, et même terriblement difficile, d'écrire sur la période hivernale qui suivit cette nuit de désolation et d'amère souffrance. Car après avoir tracé de jolis mots, dont le sens ravit l'âme, la plume se désole d'en faire de tristes et d'affreux. Or ce temps fut bel et bien triste et affreux, et il est inutile de le nier. Durant un long moment après l'incendie, on cessa le travail à la ferme, comme cela se fait souvent, après un deuil. La seule pensée de Gédéon était d'attraper Béguindi, ou à tout le moins, de lui obtenir la peine la plus lourde par la loi. Madame Béguindi dut quitter la maison de Pierre, parce que le propriétaire n'y voulait pas loger un homme capable de brûler des récoltes, ni sa famille. Aussi avait-il pris le prétexte d'un paiement tardif pour les expulser. Tous les meubles furent vendus, et Madame Béguindi et Jancis partirent, avec seulement ce qu'elles avaient sur elles, pour Silverton, où Béguindi attendait en prison sa comparution aux assises. La pauvre Jancis ne tenait pas même debout, parce que dès qu'elle apprit les terribles intentions nouvelles de Gédéon, que j'avais exposées à sa mère pour qu'elle les lui transmît le plus doucement possible, elle tomba par terre et ne bougea plus, ni ne parla. Ceux qui l'emmenèrent avec sa mère depuis la ferme de Plache dans une charrette nous dirent qu'elle resta allongée comme une fleur brisée tout le long du trajet. Ce fut probablement mieux ainsi, car si elle eût gardé quelque force, elle aurait essayé de voir Gédéon, et je pense qu'il l'aurait frappée dans la rage amère qui le consumait. Gédéon se réjouit quand il apprit le drame qui venait les accabler. Et lorsque le jour vint où elle devait partir, il prit le chemin du bois et alla à un endroit d'où il pourrait voir passer la charrette. Et il la vit, conduite par l'ouvrier de la ferme, qui gardait un air contrarié, n'ayant pas envie d'être vue en pareille situation, avec ces personnes en détresse. La pauvre Madame Béguindi, âgée, l'air hagard, assise dans la charrette, et Jancis allongée sur de la paille dans le fond, comme une figurine de cire blanche. Je sais tout cela, parce que le Tim du meunier était à ce moment-là dans les bois. Et, ayant eu la peur de sa vie, il courut chez nous me raconter les choses. « Oh, broussarde, j'étais au bois pour chercher des noisettes, commença-t-il. Et j'ai vu M. Sarn, marchant tout seul, l'air terrible et triste, et j'ai eu peur. Alors, je me suis caché dans un arbre. M. Sarn, il s'est mis sous les grandes branches du gros hêtre, là où la route passe tout près en traversant le bois. Au bout d'un moment, on a entendu un bruit de roulement, et j'ai vu la charrette de Plache avec Dame Béguindi qui pleurait affreusement, mais j'ai pas vu Jancis. Alors j'ai grimpé sur l'arbre pour voir si elle était au fond de la charrette. Et c'est bien là qu'elle se trouvait. On aurait dit qu'elle était morte. Elle avait l'air de la petite fille sur le tableau dans l'église, celle pour qui on est allé chercher le Seigneur et qui lui a dit « Lève-toi ». Mais à Jancis, il ne lui a pas dit. Et c'était horrible à voir. Je suis descendue de l'arbre et j'ai vu M. Sarn qui regardait en bas pour voir la charrette depuis le petit talus. Vous savez, celui qui est par là-bas. Il avait une tête qui faisait peur. J'allais partir en courant quand il s'est mis à bouger, alors je me suis tenue tranquille, pour pas qu'il vienne vers moi. Il a ronchonné un bon moment contre la charrette, jusqu'à ce qu'on n'entende presque plus le roulement, comme quand ça ressemble au bruit d'un vol de hanneton. Et puis il n'y a plus de bruit du tout, à part qu'une griffe frappait une coque contre une pierre. Alors M. Sarn a levé ses deux poings en l'air, il les a secoués en direction de la charrette. Et, oh, prou, Sa tête ressemblait à la tête de Jéhovah quand il est très en colère dans le livre de mon père. Après ça, il est reparti lentement en regardant par terre, et la grive a continué de taper la coque sur la pierre. Et moi, j'ai couru ici. Et c'est ainsi que l'homme le plus estimé du village a laissé s'en aller la fille qu'il avait lui-même choisie, une fille comme un bouton de nénuphar, et qui lui avait donné son amour. Je me suis dit, c'est le fléau. Oui, c'est le terrible fléau. Cependant, après cela, Gédéon sembla plus à l'aise. Et je pense que c'était parce qu'il n'avait pas été sûr de son cœur. Il avait sans doute craint de tout abandonner si Jancis venait à lui. Or, il ne voulait absolument pas renoncer à son projet, mais tout recommencer à nouveau et aller droit devant jusqu'à l'objectif final qu'il s'était fixé. Le jour qui suivit, celui où les dames Begindi étaient parties, Gédéon alla chercher des charrues, et venant à la porte de la cuisine, il m'appela tandis que je faisais du gruau pour mère, qui était de nouveau alitée, et cela depuis l'incendie, ne mangeant rien d'autre que du gruau ou du lait caillé. Et il me dit « Viens, on va commencer le grand chant. D'accord, Prou ?» J'ai pensé qu'il valait mieux ne pas le contrarier, alors je répondis « Oui, j'arrive !» J'apportai le gruau à mère et lui fis part de mon intention de prendre TV pour lui tenir compagnie de temps à autre, puisqu'on allait recommencer les labours. Elle répondit « Oh, encore ce triste vieux labour. Et peut-être que ce blé brûlera comme le dernier. Pas de mariage, pas de maison avec de la porcelaine ou autre chose, que des cochons à s'occuper dès le retour du printemps. Mais ce printemps, je le verrai sûrement pas. Je me sens très faible, Prou. Faut appeler l'apprenti du docteur, je crois. » Et vraiment, elle avait de pauvres mains bien minces et déformées, un visage assombri et amaigri, et plus que jamais, on pouvait la comparer à un oiseau perdu ou à une créature prise au piège, d'autant que sa peur de Gédéon s'était accrue. « Le laisse pas entrer dans la chambre tant que j'irai pas mieux, » disait-elle. « Laisse pas mon fils Sarn venir me faire sentir que je suis un fardeau. » Il ne m'aime pas. Il me voudrait morte et enterrée. Et elle levait les mains pour m'implorer. Je pris donc Tivi pour venir s'occuper d'elle. Et tout cet hiver, où le temps fut morne, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, nous nous mîmes à labourer, retournant les tiges de chaume de cette belle récolte que nous avions perdue. Nous étions plus pauvres qu'avant, et les choses n'allèrent pas mieux, puisque nous n'avions plus de cœur à l'ouvrage. De plus, il y avait Tivi à nourrir, car même si elle venait gratuitement par amour pour Gédéon, il fallait tout de même ajouter de la nourriture pour elle, et elle avait bon appétit. Le remplaçant du docteur coûtait cher aussi, et plus le temps était mauvais, plus il augmentait le prix qu'on lui devait. Autour du nouvel an, il y eut une période de grand froid avec du verglas sur les routes. Son cheval tomba et se cassa une patte, et l'on dut verser une somme supplémentaire pour cela. Les choses semblaient aller de mal en pis, parce que Gédéon me gardait plus longtemps auprès de lui à conduire la charrue, si bien que je devais laisser à Tivi le travail de la laiterie et celui des poules et des cochons. Et elle était un peu étourdie et pas très soigneuse. Alors les gens commencèrent à se plaindre de la qualité du beurre. La volaille ne respirait pas la santé et les cochons maigrissaient et grognaient, tandis que Tivi ne pensait qu'à se faire jolie et attirante pour Gédéon. Le temps empirait à mesure que le mois de janvier avançait. Nous eûmes une forte tombée de neige, et une nuit, mère alla si mal qu'il me fallait envoyer chercher l'assistant du docteur une nouvelle fois. En fait, je ne pouvais envoyer personne, puisqu'avec cette neige épaisse, nul ne voudrait partir. Comme il n'y avait rien à apporter au marché, les vaches, sauf une, ne donnant plus de lait, et les œufs se faisant rares, Gédéon n'était pas censé aller à Lollingford. Aussi décidai-je de m'y rendre moi-même le dimanche suivant, jour où même Gédéon arrêtait les labours. Et une fois là-bas, je pourrais envoyer un mot par la diligence de Lollingford. C'est ce que je fis. J'en eus beaucoup de fatigue et de tristesse étant passé près de la maison vide de Kester Woodsheaves. Ce qui m'amena à penser à lui, à la grande ville où il pouvait être malade et où il avait peut-être rencontré une amoureuse, et donc ne reviendrait plus à Lollingford. Cependant, après coup, je fus tout de même contente de cette journée épuisante. Parce qu'il arrive des moments où le seul réconfort que l'on puisse avoir, c'est le souvenir de dures épreuves supportées pour un être cher. Quand après plusieurs jours, l'assistant du docteur finit par arriver, il fut obligé de séjourner quelque temps chez nous à cause des routes impraticables. Cela irrita Gédéon, qui pensait à la dépense en nourriture pour l'âme et son cheval. Il fut d'autant plus énervé que le docteur donna un compte-rendu positif de la santé de mère, alors que Gédéon l'avait cru aux portes de la mort, étant donné que j'avais fait chercher l'homme de très loin. Je me souviens que, tard, au cours d'une nuit agitée, où une pluie d'orage tambourinait sur la fenêtre, nous étions assis autour de l'âtre et d'un bon feu flamboyant qui nous rendait contents. L'assistant du docteur était une personne affable, un petit homme rond et roux, dont les joues étaient d'un écarlate brillant, comme laqué. Il se frottait constamment les mains, laissant supposer que son dernier patient lui avait procuré un grand plaisir. En réalité, on ne pouvait pas en déduire que le malade allait mieux, car il se frottait les mains aussi bien devant un cadavre que devant une personne alerte, et je pensais même qu'il le faisait plus encore dans le premier cas. Il était en train de se frotter les mains quand nous parlâmes de mère, mais avec moins d'intensité que lorsque nous avions auparavant parlé de la pauvre Madame Begindy, qui avait été de plus en plus mal depuis ses débuts à Silverton et qui maintenant était en phase de déclin. Ce n'est pas que ce fût un mauvais homme ou qu'il espérait le malheur des gens. Seulement il était, naturellement, plus intéressé de se trouver face à une maladie grave plutôt qu'à une affection bénigne. Madame Sarne va s'en sortir maintenant. Elle ira bien mieux, dit-il. Oh, dit Gédéon. Elle va s'en sortir, vraiment? Oui, et ça ne m'étonnerait pas qu'elle vive encore de nombreuses années. Une vieille dame tout en air, résistante, même si elle est menue et frêleuse. Combien d'années? S'enquit Gédéon. Oh, c'est difficile à savoir. Le docteur pourrait peut-être le dire, mais moi, bien sûr, je ne suis que son assistant. Mais ça pourrait bien être 10 ans facile. Oui, je dirais 10, si on s'occupe bien d'elle.
10 ans?
Dit Gédéon d'une bien curieuse manière.
Oui, mais vous devez la chouchouter.
10 ans? Et toujours comme elle est là? Demanda Gédéon.
Oh oui, probablement à l'été durant l'hiver au début, et puis après ce sera tout au long de l'année.
Et elle pourra plus être utile,
reprit Gédéon.
Utile? Pourquoi? De quelle utilité pourrait-elle être? S'étonna l'apprenti médecin.
Mais sans répondre, Gédéon poursuivit. Et vous serez là 2 ou 3 fois par hiver, suppose?
Oh oui.
« Si vous me faites appeler, » répondit l'homme en se servant une gorgée de bière et en reprenant un morceau de pain et de fromage, ce qui exaspéra Gédéon, qui me dit
« Il serait temps de débarrasser la table, Prou. Il y a longtemps que je suis repu. »«
Oh !» s'écria Tivi, « mais tu manges bien trop peu. C'est étonnant que tu sois pas affamé. T'as besoin d'une femme qui cuisine pour toi de bons plats alléchants. Tiens, par exemple, des feuilletés d'andouillettes. » C'est aussi différent de simples andouillettes que le paradis l'est de l'enfer. J'en ai fait dimanche il y a une semaine, et père et Samy ont pas bronché toute la journée du lendemain, tant ils étaient rassasiés.
« Oh, ma chère, » dit l'assistant du docteur, « j'aimerais bien ne pas être déjà mariée, ou que oui. »
« Même si vous l'étiez pas, il n'y aurait pas moyen, » dit Ivy. « Moi, je veux un gars costaud. »
Gédéon n'attacha aucune importance à cette assertion, pas plus qu'au feuilleté d'andouillette. Mais Ivy continuait.
« Un gars très costaud et brun, des épaules larges, de grandes mains, des bras avec de gros muscles, de grands pieds, de fortes jambes. »
« Mais, mademoiselle, » dit l'homme du docteur, « vous faites une description comme celle dans le Cantique des Cantiques de Salomon. »
« Et rude, » poursuivit Tivi, sans lui prêter attention, le regard fixé sur Gédéon. « Rude et jamais fatigué. Vigoureux et passionné. Difficile à tromper, mais un amoureux solide et fier. Et qui se laisse pas avoir par la fille à qui il est attaché. Voilà l'homme que je veux. Oui, voilà l'homme pour qui Tiviria Sexton sera une femme droite et bonne, avec aucune autre idée que d'économiser, gratter et racler pour faire ce qui lui plaît et le rendre riche.
Oh, vous auriez dû être avocate, mademoiselle, assurément, dit notre visiteur. Et si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, que je sois mise en bouteille dans de l'alcool comme un tétard. »
Mais Gédéon ne leva pas même les yeux sur elle, restant simplement assis, à lancer des regards impatients alentour, jusqu'à ce qu'elle partît se coucher. Alors il répéta.
« Et elle peut durer des années comme ça, toujours malade, mais continuant à vivre. »
« Oui, oui, bien sûr.
Les portes qui craquent, vous connaissez. Mais il faut veiller à ce que son pouls reste fort. C'est là le danger. Si elle perd son pouls, elle peut partir facilement, et d'un coup. Avant que vous n'ayez eu le temps de dire « Sarsa Paria ». Gardez-lui un pouls fort, et elle sera aussi joyeuse qu'un merle. » La conversation se prolongea encore un peu. Puis Gédéon dit qu'il allait voir le bétail avant de revenir se coucher, et ajouta « Ma longue corde mouchetée est bien faible, elle a tout le temps de la fièvre. Des fois son cœur bat à éclater, je vais lui donner une dose de gantline. Je pense que ça va la remettre d'aplomb. »
« Oui, répondit l'assistant du docteur, cette sorte de campanule va rapidement abaisser le pouls. Mais il faut faire attention.
Est-ce que la vache est jeune ?»
Va sur ses 4 ans.
Alors ne lui en donnez pas trop. Lorsqu'on devient vieux et qu'on se dégrade, on ne peut pas supporter une dose trop forte.
Notre visiteur était parti se coucher quand Gédéon revint de l'étable. Il s'assit d'air désespéré et dit
« On dirait qu'il va mourir. »
« Qui ? La moucheté ? » demandai-je.
« Oui, ce vieux démon m'a bien jeté un mauvais sort à ce qu'il semble. »
C'est simplement dû au mauvais temps, et à Tivi, pas très soigneuse, et à moi, si occupée avec ses labours.
Et à mère, ajouta-t-il. Avant, elle avait l'habitude d'aider, et maintenant, pas même utile, et pire encore.
Un lourd fardeau, maintenant qu'elle est. Maintenant qu'elle est comme ça, on va jamais remonter.
Lui, montre pas que tu penses ça, dis-je. Pourtant, justement le jour suivant, quand j'apportais à mère son souper, Gédéon se trouvait au milieu de sa chambre à parler très fort, tandis que mère était comme une souris effrayée.
« Bon, lui disait-il, te v'là bien faible, mère. »«
Oui, je suis malade, Sarn, » dit-elle en souriant.
« Et ça doit te faire peine de ne pas pouvoir donner un coup de main. »«
Oui, pour sûr, Sarn. » Mais j'ai bien hâte, dès que la chaleur va revenir, de m'occuper des poules pondeuses et des autres volailles. Oui, et des canards, des petits agneaux.
Et pas des cochons, arrêta Gédéon.
Ben, si Tim pouvait s'en occuper un peu plus, ça m'arrangerait. Les rhumatismes me font souffrir quand je suis vers l'eau.
C'est ben de la dépense de donner à ce grand gars son thé chaque jour.
C'est ben... « Je vais faire de mon mieux,
Pour guérir au plus vite, Sarne.
Je pense pas que t'es contente de vivre. Toujours patraque comme ça.
C'est fatigant des fois, mais entre deux malaises, j'ai des moments bien agréables.
Même avec les rhumatismes, la toux, l'impression de sombrer. Moi, je crois plutôt que tu voudrais bien être déjà dans le monde meilleur.
Quand il plaira à Dieu de me prendre dans son monde meilleur, j'irai sans me plaindre, mais pour l'heure, j'aime mieux rester en vie, parce que la vie, je connais, même dans ce qu'elle a de pire, alors que le monde meilleur, je connais pas.
Tu sais que là-bas, il n'y a plus ni rhumatisme, ni toux, ni dépression.
Ni de place au coin de la cheminée, ni de tasse de thé, ajouta mère. Et je crois que c'est trop beau pour moi, Sarne. Mais Gédéon se tenant au milieu de la pièce dit d'une voix très forte.
Ce que tu devrais préférer, c'est mourir au plus vite.
Alors il quitta la chambre. Mais chaque soir, il revenait et disait les mêmes choses.
Ce qui me paraissait bien dommageable, parce que même s'il pensait ainsi la réconforter, et même si les gens disent que ce qu'on dit aux malades n'a pas d'importance, je pensais cependant que c'était une conversation bien désespérante pour une pauvre vieille dame souffrante.
Et au bout du compte, un soir de fin mars, par un temps d'humidité moite qui augmentait les rhumatismes, quand Gédéon arriva à cette dernière phrase qui concluait toujours sa venue dans la chambre, « Je pense bien que tu devrais préférer mourir au plus vite. »
Mère répondit, « Oui, peut-être bien que je devrais, Sarne. »
Et cela eut l'air de bien lui plaire. Il cessa de venir tous les soirs. Ce qui apaisa mère, parce que ces temps derniers, elle redoutait tellement Gédéon que même Tivi s'en aperçut. Quand vint le mois d'avril, je trouvai que les choses allaient mieux. Mère était plus joyeuse, même si elle était encore très faible. J'accomplissais d'autant mieux ma tâche que j'étais moins inquiète et que mère semblait heureuse avec Tivi. Nous faisions notre travail avec plus d'ardeur que jamais et je flottais dans mes vêtements, mais je ne m'en préoccupais pas. J'étais en train de semer en blé le grand champ, tandis que Gédéon poursuivait les labours. C'était superbe là-bas dans la fraîcheur du matin, avec des ombres pourpres sur la terre humide et le soleil se levant derrière les bois. L'étang de Sarne ressemblant à un verre craquelé, bleu pâle, nimbé de lumière. Parfois le ciel était lui aussi entièrement bleu pâle, avec des alouettes, voletant en son sein, et parfois de gros nuages blancs, comme de la laine, nouvellement lavée et cardée, étaient suspendus au-dessus des arbres, en bourgeons. Toutes ces teintes brillantes me faisaient penser aux tissages colorés que je supposais près d'être maîtrisé maintenant par Kester. Même si pas un mot n'était venu depuis Noël au sujet de ce qu'il faisait ou ressentait. J'avais l'impression que tout allait bien pour lui. Au moment de Noël, le cocher de Silverton avait laissé un paquet pour moi au pichet de cidre. Et dès que je fus au grenier, je découvris dedans une pièce d'étoffe tissée en deux couleurs et une lettre. Londres, Noël, cher Proussarne, que cette lettre en arrivant t'apporte mes meilleurs souhaits. Je sais maintenant tisser en deux couleurs, comme tu peux le voir par l'échantillon. Les femmes par ici sont peu de choses, pâles et petites, blondes pour la plupart, et on ne trouve guère chez elles de jolis yeux sombres chatoyants. J'ai été invitée à un festin chez un conseiller municipal également tisserand. À côté de moi se trouvait une jeune fille qui avait épargné sur le tissu de sa robe, mais pas sur son maquillage. Alors je me suis remémorée une sombre salle de pierre et le visage du jeune Camperdine dans l'ombre et une femme qui fit ce qu'elle fit par amour et gentillesse et dans l'amertume de son esprit. Ce qui ne l'empêcha pas de paraître féerique comme la floraison du pommier. et d'allumer chez un gars un feu qu'il sera difficile d'éteindre. Joyeux Noël et bonne et heureuse année de Kester Woodsheaves. Je dois dire que cette lettre était en lambeaux, aux alentours d'avril, comme si des souris s'y étaient attaquées. Je lui envoyais moi aussi une lettre pour Noël. Et la voici. Sarn, Noël. Cher Tisserand, voici une chemise dans une toile épaisse. On dit que la portée préserve de la variole et d'autres maladies. Je l'ai tissée à partir de chanvre en récitant quelques vieilles formules magiques. Mais que de bonnes formules, aucune mauvaise. Très souvent, je pense au jour où nous avions observé les libellules, au moment du trouble des eaux, quand les nénuphars étaient en fleurs. Eh bien, au revoir, et que Dieu te bénisse. Bien à toi, Prudence Sarne. Le 7 avril commença par une belle matinée claire, ce qui me fit penser au tissage, et tout en montant et descendant le champ pour semer les graines resplendissantes, je me mis à chanter le pont d'orge. Ô, partez danser d'un pied léger, mais soyez rentrés à la nuit tombée. Ouvrez grand les portes vers la nuée, et que le roi entre sur son destrier. Je me demandais si Kester viendrait à cheval depuis Londres. Il avait dit qu'il y serait pour la foire, au moment des eaux troubles, quand les nénuphars seraient en fleurs, tout autour des berges de l'étang, et contempleraient leur ange. Et quand les libellules Martin Pêcheur ou les demoiselles brillantes aux couleurs chatoyantes se libéreraient de leur enveloppe. C'est à cela que je pensais quand, levant la tête, je vis Tivi qui arrivait en courant à toute vitesse, l'air angoissé. « Viens vite, Prue, dit-elle, elle va très mal, le thé n'est pas passé. Il m'a dit « Donne-lui un thé fort, ça lui fera plus de bien. » C'est ce que j'ai fait, et elle l'a trouvé bien amer. Mais elle l'a bu, et rapidement elle est devenue si faible. J'entendais plus son souffle, et puis elle a eu un bruit de gorge et a murmuré « Va chercher Prue. » J'arrivais juste à temps pour embrasser Mère qui s'était toute recroquevillée sur ses oreillers. Elle murmura « Une infusion amère. » Elle sourit, chercha son souffle et expira. Après quelques instants, je demandai à Tivi où est ce thé, mais elle l'avait jeté. « Chez Déon, dis-je alors, est-ce qu'il y avait du poison dans le thé que tu as demandé à Tivi de donner à Mère ?»« Comment je peux savoir ce que Tivi a donné à Mère ?» répondit-il. « Oh, Sarn, pour sûr que tu le sais !» s'écria Tivi. « T'as même dit, fais-le lui fort !» C'est ce que t'as dit. Tiens ta langue, petite menteuse, cria Gédéon, ou je te prierai de dire à Prue ce que toi et moi on a fait dans le hangar dimanche, il y a une semaine. À ces mots, Tivi eut les joues en feu, et elle se tut. Je ne pus rien tirer de ces deux-là. J'envoyai chercher le docteur pour savoir de quoi Mère était morte. Et il demanda s'il était dans nos habitudes de lui donner un peu de digitalis. Mot étrange que je ne connaissais pas, mais il me l'épela et je l'écrivis. Et je lui dis que non, que je n'avais pas même entendu parler de ce mot. Alors il dit « Gantline ». « De la gantline » dis-je. « Non, pourquoi lui en aurait-on donné ?»« Oh, vraiment ?» me dit-il, me jetant un regard aigu. « Ce que je voudrais savoir, monsieur, dis-je, c'est de quoi Mère est morte. Elle commençait si gentiment à reprendre un peu de santé. »« C'est bien ce que je veux savoir moi aussi, » me dit-il. « Peut-être faudrait-il une autopsie, monsieur, » lui dis-je. « Oh, vous voudriez une enquête sur le corps ?»« Oui, bien sûr, si on le fait bien et proprement. » »«
Bon, si vous voulez qu'on le fasse... » C'est donc inutile de le faire.
Cet homme était particulièrement bizarre. Je comprenais rien de ce qu'il disait.
J'avais des doutes, ajouta-t-il. Mais si vous demandez une autopsie, je suppose que ce n'est rien d'autre que l'âge.
Ça leur fait souvent cela au printemps.
Et une enquête, c'est bien des complications et des dépenses. Tout cela pour un tout petit doute. Oh, ça ne fera pas revenir la pauvre femme. Donc, si vous voulez une enquête, c'est pas la peine de s'embêter avec ça.
Je trouvais que ce qu'il disait n'avait ni queue ni tête. Mais me souvenant qu'un docteur était un homme cultivé, j'abandonnai l'idée d'essayer de le comprendre. Car il y a autant de mystères dans un homme éduqué qui a poursuivi toutes ses études correctement qu'il y en a dans le concept de la Trinité. Puis, ayant été fort occupé avec les funérailles et tout le reste, je ne pensais plus à ce docteur, mais seulement à mère. Et mon chagrin fut bien douloureux, parce que quand elle fut couchée dans le cercueil, elle ressemblait à un oiseau gelé, terrassé par l'hiver.